Hey, bon matin, comment ça va?
Bon matin, ça va bien, toi?
Mais j'ai encore l'oreiller dans la face un petit peu, moi, te le dire, là.
Ouais, mais moi aussi. Mais c'est normal, on est dimanche.
Ouais.
Dimanche, ouais. Bienvenue dans vos dimanches KM sur la route.
Ouais.
Alors qu'on n'est pas sur la route, mais on va l'être cette semaine, par exemple.
On va l'être, on embarque dans un avion tantôt.
C'est après-midi! Je m'en vais voir Big Las Vegas. Ouais, ouais, moi, je suis jamais allée, là, pour lui.
Hop, il y a des portes qui rouvrent.
Oui, des portes qui rouvrent, des portes qui ferment.
T'as reformé, c'est correct.
Non, non, c'est correct. Ça veut dire que, écoute, tout est beau.
Moi, Lucas vient de se lever, puis il est mêlé. Hein, ce qu'ils font là, matin. Alors, on a pelleté les derniers jours, on est un petit peu claqué. On va faire dodo dans l'avion. Carrément.
Ouais, moi, il faut que je travaille dans l'avion, j'ai des textes à remettre.
Moi, je vais dormir.
Ben, tu dormiras.
Moi, regarde-moi la face, je vais dormir. C'est sûr. Sûr que je dors. On s'en va à Vegas pour le shot show. C'est sûr qu'on va parler de là-bas, plein de nouveautés. Suivez-nous là, dans la prochaine semaine.
Ah oui.
Vous allez voir de la vidéo apparaître en masse, de la photo apparaître en masse. On va essayer de vous faire un petit live, évidemment, directement de là-bas, si on est capable. Dépendamment un petit peu des rendez-vous qu'on a, parce que ça bouge beaucoup. Vegas, c'est une grosse semaine. Honnêtement, là, on se garde une journée de dodo afin de tout ça de revenir dans le réel. On se garde une journée de dodo. On a le temps, évidemment, de sortir un petit peu sur la strip le soir. Puis je pense que cette année, là, on devrait se donner comme mandat de, oui, prendre des photos dans le shot show, mais les sortir un peu aussi.
Oui, de vous amener avec nous autres un peu dans l'univers là-bas.
Oui.
De toute façon, c'est un peu ça qu'on fait avec les KM sur la route. Je pense que ça pourrait être le fun. De toute façon, probablement qu'on va faire notre KM directement de là-bas.
Oui.
Je pense que ça pourrait être le fun de le faire demain.
Oui, oui, parce qu'on prend l'avion dans la nuit de samedi à dimanche pour revenir après. Fait que...
Oui.
Si.
Ça serait juste parfait.
Exactement. On pourrait comme le TP avant d'embarquer dans l'avion parce qu'on va être encore dans les avions.
Oui, c'est ça.
On n'aura pas de signal à 10h le matin.
Non, là. On va être dans les avions, on va être dans le ciel.
Ouais,
mais
ouais,
oui,
ouais.
Effectivement. Moi, je pense que ça pourrait être
super. Vous sortir ça strip un peu, ça pourrait être pas mal trippant.
Oui. C'est quoi ça le plus out là-bas?
De te voir la face. Vegas.
Attends, t'as-tu dit Elvis ce matin?
Check mon remède.
Ça te fait pas d'aller à Vegas.
Non, mais j'ai hâte de te voir la face. L'opulence de Vegas, il y a de l'exagération là-bas. T'sais, je veux dire, tout est disponible, mais tu rentres dans un magasin et tu fais comme... Moi, j'en ai vu demander, « Hey, tu veux, il y a une belle sacoche, 16 000 $. »« Ouais, y'a-tu ça à la porte? » On est...
16 000 $.
Ah, écoute, il y a des. Il y a vraiment de là à là. Tu sais, c'est un petit peu exagéré, mais il y a moyen. Tu sais, il y a des Denny's, il y a des McDo, il y a des.
Moi, j'ai rien qu'en tête la première photo que tu m'as envoyée du shot show.
C'était quoi?
Ah, c'était des distributeurs à munitions.
Des machines à bonbons.
Ah, c'était des machines. C'était ça, c'était carrément des machines à bonbons, mais à munitions.
Ouais,
j'étais comme un jour, je vais aller voir ça live.
Oui. Tu sais, le shot show, c'est tous les grands manufacturiers, c'est des milliers de personnes, c'est des kilomètres et des kilomètres de rangées. Puis là, ils ont doublé de superficie avec le forum, le genre de forum, Caesar's Forum en arrière. Fait que c'est encore plus. Fait qu'évidemment, tous les manufacturiers qu'on connaît, plusieurs qu'on ne connaît pas parce qu'ils distribuent peut-être moins au Canada, qui sont plus connus aux États-Unis ou dans d'autres pays, mais c'est aussi des compagnies manufacturières, autant chinois que finlandais, que turcs, que d'un petit peu partout. Autant dans des produits finis comme des armes à feu qu'un paquet de pièces de mécanisme. Évidemment, dans le reste du monde, parce que nous, on se distingue ici, hein, dans le reste du monde, les AR-15 sont excessivement populaires. Donc, il y a une très, très grande majorité des exposants qui sont sur place qui tournent autour de l'AR-15. Le tir sportif avec l'AR-15, entre autres.
Beaucoup de tirs sportifs. T'sais, moi, pour avoir fait le tour des différents exposants, c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus populaire aux États-Unis que chez nous. D'ailleurs, l'industrie du handgun, donc vraiment les armes de poing, est beaucoup plus présente de ce côté-là aussi à cause de ça, entre autres. Parce que oui, il y a le law enforcement aussi qui est là, donc vraiment tout ce qui a rapport aux forces policières, aux militaria aussi. Mais il y a vraiment l'industrie du... Tu sais, on le voit, là, les différentes industries, je pense entre autres à Mantis ou des choses comme ça, qui... Strikeman aussi, qui ont des systèmes de pratique de tir à vide pour justement ces tireurs sportifs-là, pour qu'ils puissent se pratiquer à la maison. C'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus populaire aux États-Unis.
Ils ont des unités pour les shotguns aussi.
Oui.
Ça, j'ai trippé là, pour faire du tir à vide sur un mur ou peu importe.
Oui, à l'arc aussi, même chose. Donc, tu sais, c'est super le fun de... d'aller découvrir tout ça. Mais moi, ce que j'ai hâte de voir aussi, c'est les nouveaux produits. Parce oui. que ça, c'est quelque chose qu'on s'en va chercher beaucoup quand on s'en va du côté du Shot Show pour vous dans la prochaine année, que ce soit dans le magazine ou encore dans l'émission, c'est de vous faire découvrir les nouveaux produits qui sortent cette année des compagnies qu'on connaît ou même des compagnies qu'on connaît un peu moins parce oui. qu'il y a eu quand même pas mal d'émergences.
Des innovations, des choses qu'on n'a oui. pas encore sur le marché. Tiens, on a déjà parlé avec Stéphane Belcha oui. va être du côté du kiosque de Browning, donc oui. on va aller prendre un peu de temps avec pour présenter les nouveautés. Steph Monette aussi est là. Mm-hmm. Il va nous garder du temps pour présenter les nouveautés de son côté aussi. Donc, Benelli, Beretta, etc., les Tika. On va aller voir aussi les autres manufacturiers vous présenter les nouveautés là-dedans. Mais on va essayer de vous trouver des innovations, des nouvelles patentes qu'on connaît moins, puis vous faire vivre ça un peu. Hey, des nouvelles?
Des nouvelles?
Guy Morin.
Oui?
J'ai trouvé ça...
T'sais, ah oui!
Guy, c'est quelqu'un qui prend position, évidemment. C'est un messager dans le dossier. Il était là dans le banc du registre. Il était là dans C21. Il a été impliqué dans le politique.
Et puis depuis évidemment. Le début, il est là.
Oui, depuis le début, il est là. Puis, Guy est coloré. Guy a sa personnalité, il est coloré. Je passe mon message d'une façon, tu passes son message d'une façon, Guy passe son message d'une autre façon.
Je pense que c'est le propre de chaque personne. Je veux dire, oui. on a notre manière de passer un message. Puis... Tu sais, je veux dire, c'est ce qui fait la beauté de la chose puis ce qui fait qu'on va rejoindre le maximum de personnes de cette façon-là, de toute
Absolument.
Façon.
Absolument. Mais dans une autre vie, Guy est un professionnel d'installation de systèmes d'alarme. Et ça s'adonne qu'il s'est ramassé à avoir le contrat d'installation de systèmes d'alarme chez des députés fédéraux parce que, bon, il y a eu une recrudescence de menaces. Donc, l'Assemblée nationale proposait aux députés fédéraux de se faire installer des systèmes de sécurité, caméras, etc., pour leur sécurité. Et Guy est un de ces businessmen-là qui fait ça dans la vie de manière très professionnelle. Mais pour ceux qui connaissent Guy, c'est un individu qui, d'abord, avant tout, excessivement professionnel. Puis, autant lorsqu'on parle d'armes à feu, il peut être très coloré dans la présentation, de propos, puis une chance parce qu'il a dégourdi bien du monde. Mais quand vient le temps de traiter du matériel, c'est un gars qui est excessivement professionnel, sécurité, minutieux, etc. Il y a des normes, il y a un processus, il y a un protocole. Mais quand Guy va installer des systèmes d'alarme, c'est un professionnel de l'industrie. Ben. Il ne parle pas de politique ou d'armes.
Mais c'est une job à faire, je veux dire, tu t'en vas pas
là. Il est dans sécurité. Fait que c'est sûr et certain que le fait d'avoir... Parce que là, c'est comme si on avait sorti un lapin du sac. Là. Mon Dieu, c'est épouvantable. Un activiste qui installe des systèmes d'alarme. C'est du profilage de par les... croyances religieuses ou politiques. Tu sais, c'est prévu.
Ça te rappelle pas quelqu'un?
Quelqu'un, vas-y.
Oui, il n'y a pas quelqu'un qui vient d'avoir le même type de traitement dans les dernières semaines?
Monsieur Price. Carey Price.
Ah oui, écoute, profilage. Pourquoi ne pas trouver une espèce de petite épingle qui pourrait peut-être entacher la réputation de quelqu'un?
Mais en quoi... Tu sais, à la limite, non, moi, je revirais la nouvelle de bord, puis je parlerais de... On appelle ça du délit d'indulgence ou de l'ingérence, du moins. Là, on va porter un jugement sur un installateur dans sa qualité d'installateur ou dans son respect de la sécurité de ses clients par rapport à ses allégeances politiques. Je veux dire, la Charte des droits et libertés de la personne nous prémunit de ça, nous protège de ça. Oui. On ne peut pas... Enfin, tu ne peux pas commencer... en politique ou quoi que ce soit, ça va d'un bord comme de l'autre. On parle de McKenzie ces temps-ci, les Twitter Files, on parle de tous les jugements préférentiels par rapport à des attachements politiques, etc. Ça a toujours été la commission, la grosse commission là, avec toutes les subventions. La commission Charbonneau, puis il y a une couple d'autres commissions comme ça. Le traitement préférentiel de contact de différentes industries de par leurs allégeances politiques. Mais là, dans ce cas-ci, justement, ça en est un bel exemple où est-ce qu'on fait abstraction de l'allégeance politique, puis on fait affaire avec un gars qui est professionnel, qui, dans sa vie de tous les jours, sa business, c'est de la sécurité. Il prend ça à cœur, c'est un professionnel. J'ai trouvé ça carrément déplacé de faire appel à ses allégeances politiques, puis de venir entacher potentiellement son caractère professionnel en tant qu'installateur, en tant que business dans le domaine des... Puis, je trouve qu'encore une fois, on l'a vécu là, dans les derniers mois par rapport à C21, là, c'est de fouiller à tout prix, c'est chasse à la sorcière, fouiller à tout prix pour pointer du doigt, mais de manière zéro objective.
Oui, mais c'est même plus d'être zéro objectif, c'est de se tasser. Je vais le dire comme tu le dis, là, c'est de carrément se déplacer le problème. Oui. Tu sais, parce que je veux dire, ça n'a aucun lien et aucun rapport, encore une fois, On essaye d'en atteindre carrément aux individus plutôt que de regarder la problématique en place. Là, je m'attends à ce que suite à cette sortie-là, il risque d'avoir des gens qui vont aller se prononcer là-dessus, c'est clair et net. Mais le débat, il n'est pas là. On veut encore essayer de détourner l'attention. On fait encore le magicien, là.
Oh oui,
c'est encore la même affaire, là.
Du pointage de joie.
Exactement. T'sais, moi, je trouve ça vraiment dommage parce qu'encore une fois, l'Assemblée n'est pas totalement réouverte par rapport à la C-21.
Non, on va y revenir.
C'est ça. Par contre, juste avant, pourquoi pas essayer de envoyer une petite vanne pour voir si on ne serait pas capable de justement déséquilibrer tout ça avant que ça recommence?
Puis là, en plus, c'est... Les méchants hommes blancs, là. Tu regardes les scandales à l'université, là, des postes qui sont affichés, mais uniquement pour les ethnies ou les minorités. Je veux dire, ça s'en vient à l'inverse. Hein, tu sais, on demande une équité, mais tout d'un coup, c'est plus de l'équité. Là, parce que là, on est rendu qu'on discrimine l'homme blanc. Là, l'homme caucasien de race blanche, là, c'est rendu un démon. Tu sais, par rapport à Guy, là, demain matin, moi, je me pointe à l'hôpital avec un des enfants, puis on a besoin de soins, là. Que le docteur, que le médecin, le docteur en médecine ait un turban sur la tête, qu'il soit d'origine islamiste, qu'il soit... Okay. Honnêtement, moi, ce qui m'intéresse, c'est ses connaissances.
Mais oui.
Et ce qu'il peut me rendre comme service dans le cas présent, on parle de sécurité au niveau de la santé de mon enfant, mais Guy, c'est un professionnel dans ce milieu-là.
Mais oui. Fait que
le jugement n'a pas sa place. Le rattachement aux opinions politiques n'a pas sa place là-dedans. Si tu veux, pour aller installer des systèmes de sécurité comme ça... Il a fallu qu'il se qualifie aussi au niveau sécurité, oui, donc il a fallu qu'il soit enquêté. À un moment donné, quand tu es enquêté, c'est un petit peu comme quand on pointe les propriétaires d'armes à feu présentement, avec tout ce qu'on passe comme qualification pour avoir le droit d'avoir une arme à feu. Tu as été enquêté, tu as des enquêtes aux 24 heures maintenant qui sont possibles, etc. À un moment donné, il a lâché le morceau, Guy, c'est la même affaire, il était enquêté, il a été certifié pour faire ça.
Oui.
On s'en fout complètement de son allégeance politique. Il est professionnel dans ce qu'il fait. Là, c'est ramassé.
Ben moi, c'est parce que ça sort trop sur la scène publique. Puis comme je dis, ça n'a pas lieu d'être.
Non,
ça pas...
non.
Puis tu sais, encore là, on s'en va parler. Puis je comprends, là, tu sais, je veux dire, à partir du moment où on s'expose sur la place publique puis qu'on vient prononcer, dans un débat aussi majeur que celui-là, ben, tu sais, Guy a été vu sur à peu près toutes les plateformes médias au fil des années. Puis c'est correct. Mais tu sais, je veux dire, il y a une limite. Là, on est rendu qu'on attache son travail personnel au débat par rapport aux armes à feu. Ça n'a pas sa raison d'être. Tu sais, je veux dire, on est complètement à côté de la traque, encore une fois. Moi, c'est ce que je déplore beaucoup. Là,
on voit des stations de télévision qui font appel à Guy lorsqu'ils ont besoin d'une opinion professionnelle qu'on va qualifier de pro-armes parce que c'est le choix qu'il décide de prendre. Moi, je vais dire comme propriétaire légitime d'armes à feu. Donc, ils font appel à Guy lorsqu'ils ont besoin d'une opinion professionnelle là-dessus. Puis là, tout d'un coup, ben c'est le clown de la place. Tout d'un coup, on a trouvé quelque chose pour faire de la nouvelle, on va en faire de la nouvelle. Là. C'est réducteur en tabarouette. C'est Québec. C'est très Québec. Carey Price a décidé d'aller vivre ailleurs. Il y a la possibilité de le faire. Il a décidé d'aller vivre ailleurs pour ce genre de raisons-là. C'est pas le premier, ça sera pas le dernier, assurément. Non. Il y en a beaucoup, s'il n'y avait pas d'attache, ce serait... Et j'en entends parler tous les jours, ça. C'est quoi, c'est... Il y avait justement, à Choix Radio X, il y avait des segments spécifiques là-dessus sur les... Je ne me souviens pas c'était quoi le terme, là, les gens qui sortaient du Canada ou qui sortaient du Québec, qui allaient vivre ailleurs. Puis, ils prenaient un certain temps par semaine pour parler avec... Hey, aujourd'hui, on parle avec un menuisier qui maintenant est rendu, qui habite à Winnipeg ou aux États-Unis ou quoi que ce soit. Puis, il parlait de c'était quoi son processus. C'est pas pour rien ces mouvements-là ont commencé. Là. Ouais. On se distingue comme société, mais pas nécessairement toujours positivement. C21,
oui.
Dans les dernières semaines, j'ai eu les deux genres de questions. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne parles plus de la C21? Bien simple, comité permanent sur la sécurité nationale n'est pas recommencé. Hein. C'est la dernière rencontre, c'est le 8 décembre. Fait qu'on va en avoir bientôt. Le Parlement recommence, donc les comités aussi vont recommencer. Puis, l'autre type de question, là, situe-nous, là, qu'est-ce qui se passe avec ça? D'où ça vient? J'ai l'impression qu'on peut refaire un petit tour rapide, là, mettons, à partir du début, là, pourquoi on en est rendu à ce niveau de débat-là?
Bien, moi, j'ai l'impression que, tu sais, ce qu'on a demandé à tout le monde de faire aussi durant le temps des fêtes, d'en parler avec les gens autour, tu sais, là, tu vois, on a recommencé à faire des lives depuis début janvier, puis là, on sent justement cette espèce de question-là de peux-tu me faire un recap? Peux-tu m'expliquer ça arrive de où? je pense que c'est nécessaire de le faire. Retour rapide un petit peu sur les événements, ou pourquoi on en est rendu là, qu'est-ce qui s'est passé. Puis on a aussi l'autre portion qui nous dit « bah vous criez au loup, vous capotez pour rien ». On a encore de ça. Je pense que le message n'est pas fini d'être passé.
Non,
fait que
non,
peut-être de faire un petit recap ensemble, un petit peu de ce qui s'est passé, pourquoi on en est rendu là, quelles sont les démarches en cours, puis pourquoi on a tant hâte que justement ces comités-là et la Chambre puissent reprendre leur siège pour qu'on puisse continuer dans ce dossier-là, parce qu'on ne veut surtout pas laisser aller le morceau. Fait que pour ceux qui sont tannés de m'entendre parler, by the way, on n'a pas fini. Fait que attachez votre tuque avec la broche parce que c'est loin d'être terminé. Puis la raison pour laquelle toute l'équipe s'est mise sur ce dossier-là à travailler d'arrache-pied, puis qu'on va le faire encore, puis qui est toi qui est au front en avant de tout ça, c'est pas compliqué. On pense à tous ceux qui ont un travail relié de près ou de loin à cette industrie-là, à tous les gens que ça va impacter et à tous les propriétaires légitimes d'armes à feu qui
les retombées latérales aussi.
Ah, mais oui.
Le dépanneur, le restaurant, c'est énorme.
Là.
La macroéconomie qui est alentour de ça est énorme. Mm. Mettons, on start du début.
Oui.
On start du début.
Mai 2020.
Oui. Il faut se rappeler qu'à ce moment-là, on est en temps de COVID. Ouais. L'état d'urgence sanitaire est décrété. Et un peu comme la loi martiale, l'état d'urgence sanitaire permet une chose qui est très particulière à un gouvernement qui est en place. Le gouvernement élu peut modifier ou créer des lois ou abroger des lois sans passer par la Chambre des communes, par les comités, etc. On appelle ça un décret en conseil, un « order in council » en anglais. Donc, ça, la seule façon de passer un ordre en conseil ou un ordering council, un décret en conseil, c'est quand il y a l'état d'urgence sanitaire ou encore la loi martiale. On se comprend, là, ça veut dire qu'un gouvernement peut passer une loi sans opposition, sans conseil des ministres, sans sénateur, sans absolument rien, c'est « upfront ». On passe à ce moment-là, la loi C-71, et c'est donc le bill C-71, et on dépose la première version de C-21. Jusque-là, eh bien, C-21 est déposé et au départ, on parle d'une loi qui va mettre des choses en place pour protéger les rues contre la criminalité armée.
Ouais.
Et on commence à discuter. Et dans le discours, eh bien, il y a deux grands monuments. Il y a d'un côté le côté légal, le côté policier qui parle de la provenance de la criminalité armée, d'où viennent les armes, et on identifie clairement la source à ce moment-là. Et d'un autre côté, on a un peu les acteurs des tragédies du passé, qui eux autres poussent beaucoup, beaucoup sur les armes des tragédies du passé. Fait qu'on a déjà, ça clash déjà beaucoup parce que d'un côté, on veut mettre en place des moyens qui vont cibler les armes qui commettent des crimes, et d'un autre côté, on veut à tout prix éliminer de la surface de la planète Canada tout ce qui peut se rapprocher de près ou de loin aux armes qui ont été utilisées. Dans ces méfaits-là dans le passé. Donc, il y a un côté mémorandum plus des tragédies et un côté plus fonctionnel au niveau de la constatation de ce qui se passe. Puis, une première liste est faite. Dans la première liste, le fameux AR-15, la Ruger Mini 14, qui sont très, très, très associés à des problématiques dans le passé. Et on décrète à ce moment-là, pour la première fois, et ses variantes. Et de l'AR-15, on retient toute la partie ergonomie. Donc, à partir de là, on crée une définition. On parle d'armes d'assaut ou d'armes militarisées en utilisant les différentes parties ergonomiques d'un AR-15. Pistol grip, le forearm, les différentes, le cheek razor, tout ce qui a l'air esthétiquement militarisé devient une variante de l'AR-15. On voit se faire retirer des Derya MK12 qui ne sont même pas dans la même catégorie parce que l'AR-15, au départ, est retiré de par ses capacités.
Ouais.
On parle de ses capacités en termes de précision de tir, et etc. Et là, on arrive avec des choses comme le Derya MK12, puis là, on pourrait en nommer bien plein, là, qui est un fusil de calibre 12 qui a un pistol grip puis qui ressemble à... Là, les gens chassent le petit gibier avec ça. Fait que déjà, on part dans un grand, grand, grand débat. La rogne populaire lève du côté des propriétaires légitimes d'armes à feu. Mais dans une première vague, on voit surtout les tireurs sportifs se lever. Et à ce moment-là, on tente de brasser un petit peu les chasseurs parce qu'on dit aux chasseurs, écoutez, là, Il y a aussi une définition d'un maximum de puissance à la sortie de la bouche du canon de 10 000 joules, puissance nominale, et une définition sur l'âme du canon en termes de millimètres pour les fusils. Donc, vous pourriez être ciblé. Puis déjà, ça, en 2000, je ne me souviens pas trop quoi, la première élection des libéraux, c'est-tu 19, si je ne me trompe pas? On disait en ondes à ce moment-là, je parlais de ce que M. Trudeau voulait mettre en place. Et déjà,
oui, ça, c'est
à ce moment-là, il avait parlé d'une association potentielle des armes semi-automatiques à percussion centrale dans un potentiel système de contrôle des armes à feu. On arrive à la fin de cette première phase-là. Il y a des comités consultatifs, on invite des experts à venir se prononcer sur qu'est-ce qui devrait être dedans, pourquoi, etc. On drop la première liste. D'à partir de là, les événements font boum, boum, paf, paf, et là, l'incompréhension s'installe. On y va avec un gel national des armes de poing.
Ouais.
Et il faut comprendre que, encore une fois, oui, peut-être les armes de poing, et on le comprend, sont plus présents dans la criminalité, mais les armes de poing qui sont présents dans la criminalité proviennent de l'autre bord de la frontière. Ce sont des armes qui sont criminalisées. Ce ne sont pas les armes des propriétaires légitimes d'armes de poing, les tireurs sportifs, l'IPSC, etc. Bon, on fait un gel national. M. Trudeau sort et annonce un gel national des armes de poing. Là, à ce moment-là, les comités consultatifs ont déjà passé, ont donné leurs opinions sur les différentes armes, etc. Et on arrive, bam, juste un peu avant la date anniversaire de la Polytechnique, parce qu'on va voir après qu'on a accusé Carey Price de se servir ou de sortir dans un mauvais temps, de sortir alors que des familles sont en pleurs. Mais il faut comprendre que c'est M. Trudeau qui a lancé son amendement à la loi C-21 à l'approche de l'anniversaire de la Polytechnique. Donc, les accusations, très, très encore une fois, ont été très dirigées par les médias envers M. Price, alors que c'est M. Trudeau qui a décidé de sortir. Mais là, on a tout qu'un amendement. L'amendement est quasiment plus gros que le projet de loi comme tel. Et tout de suite, il est discuté parce que, mais pourquoi et quel était le sérieux de la démarche des libéraux de déposer un projet de loi totalement incomplet, puisqu'ils demandent un amendement qui est quasiment plus gros que le projet de loi comme tel. Et là, on arrive avec la fameuse définition qui vise à criminaliser toute arme à mécanisme semi-automatique à percussion centrale avec un chargeur d'une capacité de 5 munitions et plus. On comprend tout de suite que ça concerne énormément d'armes semi-automatiques. Et là, on propose une nouvelle liste de, si je ne me trompe pas, 300 ou 400 pages. Et là, je vous rappelle la définition, armes à mécanisme semi-automatique. On voit apparaître dans la liste des armes à levier, des armes à verrou, des fusils, les Parker Brothers en calibre 12, 16, 18, 20, etc., qu'on voit apparaître. Et là, par la suite, on dira qu'ils ont été mis en place par rapport à la quantité de joules, et etc. On va re-questionner. Dans la première passe, on devait avoir déjà réglé ça. On y va par amendement où est-ce qu'on pointe les semi-automatiques et là, on liste des armes de d'autres mécanismes, mais on laisse le terme et ses variantes. Oui. Donc, à la place d'identifier des calibres, donc de dire, par exemple, la Weatherby Mark V, mais en calibre Rigby, Rhino Express ou quoi que ce soit, on liste la marque comme telle ou le modèle d'armes à feu. Alors, évidemment, l'opposition commence à poser énormément de questions sur le bien fondé de tout ça et demande particulièrement à avoir le temps de lire les fameux amendements là, en G46 et etc., le G4 au complet. Là. Et puis, on se rend compte rapidement que ça ne fonctionne pas dans le comité permanent sur la sécurité nationale, puisque Raquel Danchaud, M. Lloyd, M. Motz, tente de poser des questions, de faire comme, attendez, on n'a pas toute l'information, là. Est-ce que c'est à 5 munitions à sa mise en marché au Canada, mais là, s'il y a des chargeurs aux États-Unis, comment est-ce qu'on... Et rapidement, on voit le président commencer à répondre, à dire, ce n'est pas une question qui est sujette à débat, j'ai pris la décision, on l'adopte. Alors là, ça commence à lever les rungs
pas mal.
Ça
a levé pas pire.
Et c'est le cas de dire, les armes lèvent. Rapidement, on va avoir les événements qu'on a connus, Mme Danchaud qui se fait mettre à la porte de la Chambre des communes, traitant M. Mancini de menteur, parce qu'à toutes les fois qu'on pose la question, mais pourquoi des armes de chasse sont dans la liste que vous avez établie, les libéraux répondent non, on veut protéger les Canadiens des armes capables de faire des tueries de masse, des armes d'assaut. Mais attendez, vous avez des armes de chasse, il y a des casseux, un coup, des fusils là-dedans. Non, non, les conservateurs sont creux dans les poches des lobbies d'armes à feu pour essayer de défendre de telles armes meurtrières. On protège les Canadiens contre des armes d'assaut. Hein, décasse-le un coup. Non, 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 vous ne comprenez pas, c'est pour la sécurité publique. On protège les Canadiens des armes d'assaut. Il n'y a pas de dialogue bidirectionnel, c'est unidirectionnel et on ne répond pas aux questions. Et ça va activer un petit peu les troupes du côté des autres partis. On commence à voir, même au niveau du Parti libéral, certains députés qui se prononcent contre. Les Premières Nations vont sortir contre. Et là, à un moment donné, il y a même des candidats du NPD qui vont stopper le comité, faire comme, là, attendez, excusez-moi, chers collègues, je n'ai pas eu le temps de parler ou de laisser ma trace encore dans ce comité-là, mais là, je vais parler. Et le député conservateur du NPD, le premier qui a parlé, a justement défait un peu la crédibilité d'arriver avec un amendement plus gros que la loi proprement dit, du jamais vu au niveau du fonctionnement, au niveau du processus, de l'hérésie du processus. Et là, ça commence à débouler. À ce moment-là, les libéraux sont en train de pousser pour tenter de fermer le projet C-21 avant Noël. Mais là, on a une motion de la part du Bloc québécois à ce moment-là. Le Bloc québécois qui fait comme, ah, OK, je pense qu'il faudrait avoir un comité d'experts parce qu'on a l'impression que dans l'ensemble de ce qui a été fait, on a besoin de consultations supplémentaires parce qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Et là, on commence à voir plus de NPD qui commencent à reculer. Même M. Singh, Jack Meeting, qui commence à se questionner, mais ne se prononce pas, il ne s'est pas prononcé encore. On accepte la motion qu'il va y avoir un comité d'experts, donc 4 heures de consultation, ce qui est c'est de l'hérésie. 4 heures de consultation pour avoir 400 pages.
400 pages, c'est quand même assez incroyable.
400 pages, une liste qui ne devrait pas exister parce que dans n'importe quelle autre loi, comme par exemple le maximum de décibels que peut émettre le pot d'échappement d'une motocyclette, eh bien, c'est clair. Un maximum de tant de décibels. Ça ne dit pas un muffler Akrapovic. Ça ne dit pas un CRB parce qu'on peut mettre un Akrapovic dessus. Akrapovic produit des pots d'échappement de moins du maximum de décibels. Donc, on cible, on dit, c'est comme dire, tu n'as pas le droit de tuer quelqu'un. Je n'ai pas besoin de faire une liste sur les différentes façons de tuer quelqu'un. Tu n'as pas le droit de tuer quelqu'un.
Non, ça va être correct.
Tu n'as pas le droit de dépasser tant de décibels avec une moto. La loi est écrite comme ça. Il n'y a pas de liste qui va avec. Alors, la définition, si elle serait éclaircie, et c'est un peu le discours des différentes fédérations et des différents acteurs qui mettent un peu de logique là-dedans, si la définition serait éclaircie, bien, le simple fait de dire tu n'as pas le droit d'avoir une arme ou de tu n'as pas le droit d'être dans une situation où est-ce que tu as une arme avec un chargeur de plus de 5 munitions, that's it. C'est comme de dire c'est 100 km/h ou tu n'as pas le droit de tuer ou tu n'as pas le droit de... Définition, la liste devient obsolète parce que la liste, il y a un caractère evergreen là-dedans. Il y a un caractère dans la première liste qui a été diffusée qui est très clair, qui dit que cette liste-là va rester ouverte à tout ajout futur, puisque les manufacturiers pourraient modifier certains modèles pour les ressortir.
C'est ça.
Ils ont listé le modèle qui s'appelle Cloud. On va le modifier, puis on va l'appeler Sun, puis on va le remettre sur le marché. Tout le monde se comprend pour dire on n'a pas besoin de la liste pour ça. Si la définition est claire, l'arme doit rentrer dans une définition pour être légale et that's it. Donc, on parle rapidement même de rentrer dans C-21 pour, à la limite, la bannir. Et là arrivent des malheureux incidents avec des gens de minorités visibles ou d'autres ethnies dans le cadre de la loi C-5, où est-ce que le même gouvernement, les libéraux, ont donné accès aux peines minimales et aux peines purgées en collectivité aux crimes proférés avec des armes à feu ou est-ce qu'il y a des armes à feu de présent, mais en ciblant du moins, on veut réduire la surreprésentation des Premières Nations et des minorités ethniques dans les centres pénitentiaires, ce qui est encore là, profilage du côté. On est en racisme inversé. Et on en a un qui fait les journaux à ce moment-là. Ils ont trouvé de la drogue puis des armes un peu partout, puis ils le renvoient chez eux. Il y avait des guns, s'appelle-tu Gagnon Tremblay? Non, retournez chez eux. Donc, on utilise ça beaucoup pour démontrer à quel point ça est l'augmentation magistrale des crimes à caractère violent et des crimes proférés par les gangs de rue depuis la mise en place du gouvernement de M. Trudeau. On utilise ça pour invalider les efforts qui sont mis présentement dans C-21, qui, au départ, est un bel outil qui nous permettait de lutter la criminalité en renforçant nos frontières, en donnant des sous aux policiers à prévention mentale et des maladies mentales, et etc., au suivi du moins dépistage, etc., et qui est rendu complètement ailleurs, dans lequel on active un débat qui est surfait, qui est la main pendant qu'on cache la pièce, littéralement, comme tu disais tantôt. Mm. Alors, ça, c'est un peu le tour de la C21. Où est-ce qu'on en est rendu? Mais on va reprendre là, les sessions bientôt, puis c'est de là qu'on va revoir le comité expert. J'ai hâte de voir les différents représentants du Québec et des autres provinces qui vont prendre comme experts et comment ils vont venir se prononcer. Ça va être les prochaines étapes, là, probablement dans les prochaines semaines.
Bien là, il y a autre chose qu'il faut surveiller au travers de tout ça et qu'on n'a pas parlé. Entre-temps, il y a certaines provinces qui, eux autres, ont pris des mesures de leur côté. D'ailleurs, il y a un des...
L'Alberta.
Donc, il y a un des responsables du côté de l'Alberta qui déplore cette fameuse liste-là d'armes en disant, comme dans toute législation, lorsque les policiers sont dotés de ce qu'on appelle un pouvoir discrétionnaire, se retrouvent face à une situation où ils doivent faire preuve de leur jugement à ce moment-là pour pouvoir appliquer une loi en vigueur, eh bien, là, avec les modèles et les connaissances sur le terrain et en matière d'armes à feu que les policiers peuvent avoir, ils pourraient avoir plusieurs problématiques en justice par la suite. Donc, il y a un petit peu tout ce côté-là aussi là, qui est en train de se parler. Mais du côté de l'Alberta, ça avait brassé quand même les fêtes.
L'Alberta a statué littéralement qu'ils n'appliqueraient pas la C21 dans leur province.
C'est quand même majeur.
C'est tout. Eux ont déclaré qu'ils prendraient qu'ils prendraient la législation comme elle était avant mai, avant l'application le Ordinance Council ou le décret en conseil qui a mis en place le projet de loi C21 pour juger les armes à feu et légiférer sur les armes à feu. Alors, eux autres disaient on se retire de là, littéralement. Et là, il y a d'autres provinces qui suivent. Oui. Puis là, ben la dernière patente là, qui a été démentie, face à laquelle le gouvernement a reculé. Là, il s'apprêtait, de ce qu'on pouvait comprendre de différentes sources, la GRC s'apprêtait à créer une zone test avec l'île du Prince-Édouard. Donc, créer une zone test pour le fameux programme de rachat d'armes à feu, pour aller chercher les armes à feu chez les gens puis le reprendre. Alors, ça a commencé à sortir partout dans les médias. À l'intérieur de 2 jours, là, ça a explosé partout. Là. Oui. Ils prennent l'île du Prince-Édouard pour des cobayes, ils vont tout tester là. Puis à un moment donné, pouf, il y a une sortie officielle du gouvernement qui fait comme « Non, on fera pas ça. Plusieurs vont dire qu'ils sont venus invalider. Quand on regarde le processus actuel, ils ont juste reculé en jouant le même jeu de la carte, même maudit.
Ben, si personne ne s'en était rendu compte, probablement que ça se serait fait. Mais là, tout le monde s'est sorti sur la place publique, puis que, erreur 03, on recule.
Et voilà.
Non, c'est un énorme dossier, sincèrement. Puis tu sais, on en parlait tantôt, c'est tous les dommages collatéraux que ça va avoir. T'sais, c'est une des raisons pour laquelle ça nous tient autant à cœur. Les armes, oui. Il y a aussi certaines personnes qui vont parler du fait qu'on est en train de littéralement retirer les armes du peuple, donc essayer de renforcer justement les forces militaires, les forces de l'ordre.
Ça provient de quelque chose que Bill Blair a un petit peu échappé en début de dossier, qui dit est-ce que vous trouvez normal que le peuple soit armé à un ratio de 3-1 versus l'État? Ils n'ont jamais répété ça. Mais ça l'a évidemment donné beaucoup, beaucoup de gaz à tous les conspirationnistes. Est-ce qu'il y a quelque chose de ça là-dedans? L'autre gros questionnement, une fois les armes saisies, on a beaucoup la question du côté conspiration, à qui ils vont les vendre?
Oui, ça c'est sûr. Mais il y a ça, mais moi-même, c'est le programme de rachat en soi. Demain matin, cette loi-là serait passée, ce serait fait. C'est le programme de rachat en soi de ces armes-là. C'est des millions. Ça n'a pas de bon sens, tu sais. Puis, dans la faisabilité de tout ça, avant les fêtes, le gouvernement se retrouvait devant une impasse parce que les services de police ont refusé, si jamais cette loi-là passait de cette façon-là, d'aller récupérer les dites armes. Donc, ce qui fait qu'ils se retrouvaient avec une problématique pour le programme de rachat. Et là, on était rendu à parler de compagnies de livraison pour pouvoir récupérer le tout. Donc, on vous envoie un petit bon comme un bon chez Bureau Letter ou n'importe quelle autre compagnie. On vous envoie le bon, vous le collez sur votre colis et vous renvoyez ça au gouvernement. Ça n'a pas fait l'unanimité à partir du moment où certaines compagnies de transport ont été interpellées, de ce que j'ai compris.
Parce que j'espère que ce n'est pas Intellicom, parce que j'ai l'impression qu'ils ont comme disparu de la map, eux autres. Je sais pas, écoute, il y en avait 5 qui passaient dans la rue par jour, ou 5 le matin, 5 le soir. On n'a plus un. Toutes les Amazon, on rentre par la poste. Anyway. Parenthèse.
Mais dimanche matin, t'as le droit.
Oui. Commence à me réveiller, là. Mais l'impact économique, puis ça, la masse, la population doit le comprendre. L'impact économique en termes de pertes dans une industrie qui produit des millions de dollars, de tout ce qui est latéral à ça dans ce qu'on profite lorsqu'on se rend au champ de tir pour pratiquer le tir sportif ou on se rend à la chasse, de aussi pour les pourvoyeurs, les ZEC et les CEPAC, la quantité de clients américains qui traversent, de clients non canadiens, de non-résidents qui viennent chasser au Canada et qui font vivre certaines pourvoiries qui, là, parce que leurs armes, évidemment, pour la majorité, se ramassent problématiques à entrer au Canada, ne viennent plus. Puis après ça, ben, le programme de rachat proprement dit, c'est des millions et des millions et des millions de dollars. Pendant ce temps-là, ben, on dit au système d'éducation, au système de la santé, on n'en a pas. Je reviens à tous contre un registre pour la santé mentale, contre le registre des armes à feu, qui était un groupe qu'on avait mis en place dans le passé, Pierre Lefebvre, Michel Therrien, plein de monde comme ça. C'est encore très, très, très d'actualité parce que Jean Larivière en parlait d'ailleurs dans une entrevue avec Ernie Wells pas plus tard que cette semaine. Puis c'est ce que moi, je ramène souvent. Une arme, c'est un matériel inerte. Elle n'a que d'intention que celle que peut lui donner celui qui l'opère. Puis celui qui l'opère, si c'est une personne en détresse, va trouver une autre façon d'arriver à ses fins. C'est évident.
Puis tu sais, moi, j'ai commencé à faire beaucoup de sensibilisation avec des organismes qui pensent ne pas avoir été impactés dans tout ça puis qui ne comprennent pas trop pourquoi ça nous tient autant à cœur. Via les différentes plateformes de réseaux sociaux, vous le savez, on rentre en contact avec différentes personnes, différentes strates aussi d'entreprises. Et je pense entre autres aux associations touristiques. L'industrie de la chasse et de la pêche est relativement intrinsèque. Tu as parlé des Américains qui viennent chez nous, mais c'est quand même intrinsèque dans le sens où les gens vont se promener pour s'en aller sur leur territoire de chasse, vont se diriger d'une région à l'autre. On l'a vu, entre autres, en temps de COVID, quand on s'est retrouvé un petit peu confiné dans nos régions. Ça a posé plusieurs problématiques pour les gens qui voulaient se rendre dans d'autres régions pour pouvoir aller pratiquer leur sport, pratiquer leurs loisirs. Donc, c'est vraiment une industrie qui vient favoriser l'économie touristique. Moi, j'ai commencé à faire un petit peu de sensibilisation de ce côté-là. Et là, j'ai commencé à voir des lumières allumées au cours des derniers jours particulièrement, puis à faire comme, attends une minute, là, ça me concerne, moi, ce dossier-là. Je veux en savoir un petit peu plus. Effectivement, ça peut avoir des retombées énormes, tu sais. Puis là, on voit que ça commence à ouvrir les horizons un petit peu. Là. Ça a largement dépassé qu'une simple question d'arme à feu. Là. C'est vraiment
Je veux dire, parler au non-chasseur qui attend une place à l'hôpital ou un implant cochléaire ou quelque chose comme ça parce qu'il n'y a pas de budget dans le domaine ou qui attend après une psychologue pour son jeune parce qu'il n'y a pas de budget au CHSLD ou au CLSC ou quoi que ce soit, visite-lui, on s'en va mettre des centaines de millions de dollars au vidange pour cibler une catégorie de propriétaires d'armes à feu qui, historiquement, n'est pas présent dans la criminalité au Canada. Donc, tirer ça complètement dans le beurre. Je veux dire, c'est comme de dire on va réduire les accidents de voiture, on va interdire les tondeuses dans la ville de Québec. C'est carrément ce qu'on est en train de faire. Puis, by the way, on va racheter les tondeuses, c'est ça.
Puis, tu sais, dans cette même optique-là, on aurait dû peut-être mettre les efforts en place pour améliorer les systèmes de contrôle. Jean Larivière en parlait justement dans l'entrevue avec Ernie, à dire on a un système en place qui visiblement est désuet parce qu'il y a eu certains incidents, il y a eu certaines...
Bissonnette
en est le bon exemple, justement, propriétaire légitime d'armes à feu. Il est arrivé un incident, malheureusement, il y a des vies qui ont été perdues dans tout ça. Je veux dire, le système en place semble être vraiment défaillant. Est-ce qu'on pourrait mettre l'emphase là-dessus, s'il vous plaît, et mettre l'emphase sur les individus? On est dans un retour en plus de COVID. Je veux dire, il y a eu une hausse de la criminalité dans certaines grandes villes.
Détresse de santé mentale.
Détresse de santé mentale immense. Et il y a, entre autres, j'essaie de rentrer en contact justement avec les gens en matière de prévention du suicide parce qu'il y a eu des études qui ont été faites post-pandémie. Par la société pour voir un peu comment se porte la société. Et le taux d'appel, j'ai pas encore les stats, je t'avais d'y recevoir, mais le taux d'appel a augmenté de manière fulgurante. Les gens, je veux dire, quand on appelle là-bas, c'est pas forcément parce qu'on veut passer à l'acte, mais on a besoin d'en parler, dire ça va pas, j'ai besoin d'avoir une oreille externe qui... Bon, tu sais, des fois, ça va être ce numéro-là qu'ils vont utiliser. Et le taux d'appel a explosé dans la dernière année. Donc, on voit qu'il y a vraiment une problématique sur laquelle il faut mettre l'emphase. Puis, on n'est pas en train de se diriger du tout du bon côté.
Il y a un directeur, il y a un professeur d'université qui est sorti avec une donnée là, incroyable, pan-canadienne, qui faisait le ratio entre les suicides dus à la COVID puis les décès qu'on a réussi à épargner avec les mesures qu'on a mises en place. Disons, on est déficient. On est déficient dans les moyens qu'on a mis en place. Alors, tu sais, C'est un peu comme les campagnes « barre ton arme à feu », l'entreposage sécuritaire. Vous savez, les chasseurs sont conscients de ça. Les chasseurs et tireurs sportifs, les propriétaires légitimes d'armes à feu, sont pour une sécurité au niveau des armes à feu, sont pour la mise en place de moyens de contrôle des armes à feu qui commettent des crimes. On a des moyens en place, on a des campagnes sur la sécurité des armes à feu. Info Suicide a prouvé d'ailleurs qu'une arme à feu barrée, dans un large pourcentage des cas, ben le taux de réfléchissure augmente le temps de débarrer ça, fait que ça peut empêcher bien des choses. Okay. Du moins, on va revenir avec la C-21, c'est la minute sûr. Que ça va commencer à bouger. Mais là, on a fait un live sur l'Afrique la semaine passée. Rapidement, oui, il reste quelques places. Et tu sais, puis là, vous nous écrivez des messages, il reste-tu de la place? Oui, est-ce que tu es intéressé à venir? Et là, deux ou trois jours plus tard, oui, je serais intéressé dans tel groupe, en telle date, telle date. Il en restait quand tu me l'as demandé, là, il n'en reste plus.
Ouais.
Je ne peux pas. C'est quand même limité, là. Fait que c'est hurry up si vous voulez des places, là. On refait le tour rapidement. On ne refait pas le live de jeudi. On refait un petit tour très rapide.
Avec Top Pat, c'est long, ça, un live de même.
Où est-ce qu'on s'en va? On s'en va chez Eland Safari au nord de l'Afrique du Sud. Tu vois Pretoria et Polokwane dans le haut de ton écran, présentement dans le haut de la carte, mais juste un petit peu au-dessus de ça, à la frontière du Zimbabwe et du Botswana, juste sur le long du fleuve Limpopo. C'est là qu'on s'en va. Donc, on est loin des grands centres, on est loin de la East Cape, on est loin de la Cape dans le bas, Cape Town, et etc. C'est une grosse pourvoirie avec beaucoup, beaucoup de surface pour les animaux. Donc, c'est excessivement grand. On passe par Amsterdam, parce que c'est la seule escale qu'on va faire. On part de Montréal, direction Amsterdam. On prend l'avion jusqu'à la beauté des paysages sud-africains qui sont incroyables. Les levées de soleil qui vont vous laisser des souvenirs de fou. Évidemment, comme dans n'importe quelle pourvoirie, les armes, on passe les essayer au champ de tir parce que les armes, dans les forfaits qu'on offre, sont inclus. L'avion est inclus, les armes sont incluses, le pourboire est inclus, la nourriture est inclus. Vous avez un chalet privé avec air climatisé, votre linge lavé à tous les jours. La boisson alcoolisée est inclue avec modération. Les boissons douces sont incluses à profusion. C'est un guide par deux chasseurs. Il n'y a pas d'extra à l'exception de la chambre d'hôtel à l'aéroport de Johannesburg pour pouvoir voyager de jour. Et qu'est-ce qu'on avait dit d'autre, non?
Les frais de...
Pour importer vos trophées par la suite, pour ramener vos trophées au Canada, donc vos crânes, peaux et cornes au Canada, bien là, évidemment, c'est vous qui payez le transport. Mais fichu de beau voyage, parce que vous allez avoir beaucoup d'animaux. On est en gang avec les Québécois. On mange excessivement bien. Toutes sortes d'animaux tout le tour. Les déjeuners, les dîners, les soupers se font du côté du lodge. On mange la viande qu'on chasse, la balance de la viande est donnée aux populations locales alentour de nous autres. On nous fait à manger, ça c'est le backstrip d'un animal, on nous fait à manger sur le braille littéralement. Juste l'autre bord, l'autre plaque, c'est du crocktail, que là, de la queue de crocodile qui est en train de cuire, littéralement. Les possibilités là-bas elles sont très larges en termes d'animaux. On part du Blue Wildebeest, et ça, tu étais contente, hein?
Ben ça, moi, j'ai été impressionnée. Parce que, tu sais, c'est le fun. Des fois, peut-être, là, on est dimanche, je peux peut-être en parler un peu. Là. On va rallonger. Là. Généralement, c'est des animaux qui se promènent de un en troupeau.
Oui.
Hein? Fait que, longue journée, c'est la première journée. C'est ma première journée en Afrique. Je suis à la limite, tu sais. On s'est levé de bonne heure. On n'a pas trop dormi parce qu'on avait voyagé de nuit cette fois-là.
Ce qu'on ne fera pas.
Fait qu'on était très, très, très fatigués. On était à la fin de la journée, juste aller commencer à se coucher. C'est comme semi-pénombre un peu, comme nos fins de journée de chasse. Fait que, tu sais, le crépuscule s'installe. On s'assit, tu sais, dans le truck. On est bien chill parce que ça fait un bout que, tu sais, on n'a pas vraiment vu, tu sais, de quoi qui fit dans les gibiers qu'on cherche. Tu sais, on a vu plein d'animaux, mais on n'a pas vu dans les gibiers.
Les girafes, on a vu plein de patentes. Ah, juste ouais. En rentrant dans le parc, pouf, girafe.
Oui, tu sais, on voyait de quoi, mais c'était pas dans ceux-là qu'on cherchait. Fait que, tu sais, tu tombes un peu plus smooth. Là, t'es comme, hey, wow, ça va. D'un coup, le truck arrête. Il est là. Même pas 100 pieds. Il est tout seul, pas en carte. Fait que l'histoire fait que ça c'est comme. C'est arrivé très, très, très vite. D'ailleurs, pour Beverly, j'ai failli péter un tympan pour petite.
Elle prenait des photos, elle était chaque côté du canon.
Elle était juste à côté de moi. Mais moi, je pensais qu'elle avait vu son arrêté, c'est parce qu'on avait un animal. Puis, fait que là, tu sais, moi, notre guide nous dit, place-toi direct dans l'épaule, puis vas-y, fais ton tir. Mais Beverly, elle a la face, elle, dans son. dans son objectif, puis après ses photos, ben, elle n'a jamais vu que je tirais. Elle t'a fait un moyen saut.
Ben, il tombe en bas du truck.
Puis, normalement, c'est quelque chose qu'on dit en Afrique. Puis ça, soyez-en bien informés. J'ai parlé avec d'autres mondes au cours des derniers jours qui étaient intéressés à venir en Afrique. Puis ça, il faut vraiment se l'enlever de la tête. Vous le savez, ici, on a une manière, on a un positionnement de tir, on a une façon de fonctionner. Puis on se dit, une balle, tu droppes. T'sais. En Afrique, la première chose qu'on nous dit, c'est soyez préparés à tirer plusieurs fois dans l'animal. C'est des animaux qui sont excessivement résistants. Je l'ai vécu, entre autres, avec mon blessbuck. Une belle shot, poumon, cœur. Ça a couru, cette affaire-là.
1,8 000.
On l'a couru dans le bush, là. J'en revenais même pas qu'il puisse courir avec une aussi grande vitesse puis une aussi grande aisance avec cette balle-là. D'ailleurs, si je vous le dis, c'est parce que je suis allée valider, parce que même moi, j'y croyais pas. Je suis allée voir les skinners pour être sûr. Mais c'est ça. Fait qu'une seule balle.
Oui, ton Blue Wildebeest, une seule balle, c'était rendu à la terre. Donc,
même notre guide a fait comme « Wow! »
Il me regarde, il dit « Martin, prends des notes. » En passant, quand on parle de voyager de nuit, là, on parle du tronçon qu'on prend le camion parce que partir de l'aéroport de Johannesburg, on a 5 heures de route à faire pour monter complètement au nord de l'Afrique du Sud. C'est cette portion-là que généralement on faisait de nuit. Fait que ça nous donnait une petite nuit, on rentrait à Chasselski. Donc maintenant, on dort à l'aéroport à Johannesburg, ils viennent nous chercher le matin. Beaucoup plus sécuritaire. Et en même temps, ben, on peut voir plus de la population locale, les villages.
Exactement.
Oui, vous avez surpris la première fois. Okay. Bon, évidemment, tout ce qui est impala, l'impala est très, très, très présent. Tant l'impala commun, là, ça, c'était mon premier
aussi,
impala
il est
en Afrique.
Beau, regarde-moi ça. Hein? Je parle pas de l'impala. Là.
Ben, regarde, elle est belle. Puis son impala est plus gros que le mien en plus. Regarde, les cornes revirent vers l'extérieur. C'est un fichu de beau. Eric aussi. Eric, il est large, son impala. C'est incroyable. Et évidemment, il y a d'autres phases d'impala qui sont possibles, qui sont disponibles sur les territoires. Là. Entre autres, le Black Impala, donc l'impala noir. Moi, ça a été le cadeau que je me suis fait cette année-là. Patrick l'avait fait 2 ou 3 ans auparavant. Il avait fait 2, lui, des noirs. Je les passe rapidement parce que vous m'avez redemandé c'est quoi les animaux. Là. Niala. Le Niala et le Springbok sont les deux meilleurs dans l'assiette que j'ai pu goûter. Donc, Niala, très, très bel animal.
Ça, c'est les bébites d'Avatar.
Les bébites d'Avatar.
Moi, je les appelle des bébites d'Avatar.
Très bel animal, très bon. On en a mangé beaucoup là-bas de l'impala et du Niala. Et évidemment, des autres animaux, parce que toute la semaine, on mange de la viande. Au déjeuner, dîner, souper, il y a de la viande.
C'est, oh oui, pour ceux qui pensent qu'ils
en mangent pas. En saucisse, en bacon, en n'importe quoi. Là. Mm-hmm. Tu prends 10 livres là-bas. Là. C'est aussi simple que ça. Les Springbok.
Ça, c'est mon objectif cette année.
Oui, absolument. Moi aussi, tu sais, c'est quelque chose que je veux. C'est beaucoup plus petit que l'impala. Ça ressemble quand même pas mal à l'impala.
Mais c'est vite en titi.
Ah oui. Pat qui a fait un Black Springbok à l'arc. Donc, très bel animal. Des animaux que vous allez voir beaucoup. Des autruches quand ça se met à courir d'un bord puis de l'autre. Super trippant. Ceux-là, tu les aimes, toi?
Moi, je les aime. Je les trouve drôles. Mais tu sais, c'est parce que je les aime puis je les aime pas. Parce que moi puis les oiseaux, ça fait deux. Puis le dindon, c'est encore pire, fait que ça me fait penser au dindon. Mais ce qui m'épate, c'est la quantité qu'il y a.
Ah, c'est fou. Les guinefalls, quand on arrive, là, ça se met à courir. Il y en a partout, 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 partout. Celui que Kate a couru pendant 1,8 000 de long, c'est dans cette espèce-là. Le sien, c'est plus précis. Ah, non, ça, c'est celui-là.
Non, celui à Steve.
Ah, j'ai pas le tien là-dessus, ta barouette, mais c'est pas grave. Écoute, c'est donc le blessbuck, qui est un très bel animal aussi, à peu près de la grosseur de l'impala, grosso modo. C'est aussi une des espèces qui est disponible et qui est ciblée là-bas.
Donc, c'est le tien.
Oui, celui d'il y a 3 ans, ça. Évidemment, c'est possible de faire du Cape Buffalo. Il y a de très gros mâles Cape Buffalo sur place.
Ouais, je peux vous le dire, sont gros.
Ah, puis écoute, il y en a une qui a fait connaissance avec eux autres, le Beverly.
Mais regardez-moi la tête de ça, puis c'est pas un des plus gros, ça, là.
Il y a le nez de la grosseur de la tête de Beverly.
Ça n'a aucun sens.
C'est aussi simple que ça. Je veux pas dire que Beverly a une grosse tête. Le buck a un gros nez. Bushbuck. Probablement une des meilleures viandes, ça goûte le bœuf bien vieilli, là. C'est très, très, très intéressant. L'élan, évidemment, qui est Eland Safari, là. Élan, ça vient de là, c'est énorme, plus gros qu'un orignal en termes de poids.
Ah, ça n'a pas de sens, on l'avait à côté de nous.
Oui, c'est comme... Puis ils ont de l'élan du Cap et ils ont de l'élan de Livingston aussi. Donc, ils ont les deux variétés d'élan. Bien, il y a peut-être d'autres variétés d'élan, mais eux autres, ils en ont deux. Magnifique Gemsbok Lorix. Ça, quand tu vois ça passer en troupeau, c'est assez hallucinant.
C'est un moyen temps.
Toi, ça, t'avais aimé ça aussi le prochain?
Oh, oui!
Écoute-nous!
Ça, j'en revenais juste pas. Quand tu m'as envoyé ta photo la première fois que tu es allé en Afrique, là, puis que tu m'envoyais ça, là, j'en revenais juste pas. J'étais comme, mais ça se peut pas. T'as-tu vu la grosseur de cette patente-là?
T'as-tu remarqué l'angle qui est à côté dessus? Un Winchester modèle 70.
Mm-hmm. Ben, en fait, on avait beaucoup de Winchester là-bas.
Oui, beaucoup de Winchester, puis des marques locales aussi. Ouais. Ils font affaire avec Browning Trail Cams du côté des caméras.
Ouais.
Beaucoup de Winchester au niveau des armes à feu, puis des marques de là-bas aussi. Donc, le Kudu qui peut se présenter sous différentes formes aussi au niveau
ça
du
aussi,
panache.
C'est une bébite d'avatar.
Oui. Ça, ben, on en voit partout. On en voit partout. Nous, on les chasse pas.
Tu les vois partout, mais ils ne te voient pas. À part s'est planté en plein milieu de la route. Là.
Ah oui, il a fallu décrire de quoi ça avait l'air une girafe, tu finis par la voir.
Ben, je n'étais pas tout seul de aussi à chercher. Hey, elle était tellement pas loin de nous autres, elle était même pas à 100 pieds de nous, on la voyait même pas. C'est fou comment ça se camoufle.
Oui, oui.
Ça a pas de sens.
Il y en a beaucoup, c'est majestueux, c'est beau. Pat et moi, avec Devin là-bas, on a déjà été sur le tour d'un lac. On t'avait appelé d'ailleurs en Facebook
Live.
On
est allé dans cette cache-là.
Oui, on est allé dans cette cache-là. Il y avait une trentaine ou une quarantaine de girafes sur le tour du lac qui buvaient. Là, c'était hallucinant avec les guinéfoles au travers. Un de mes objectifs, par contre, ça, c'est un jeune. Les guides ne donneraient même pas l'autorisation de tir sur un jeune comme ça chez Eland Safari. Là, on voit les fesses sont pâles encore, les cornes ne sont pas très longues. Le sable, très, très bel animal. C'est noble. Puis c'est bon. C'est très, très bon aussi. Waterbuck?
Mm-hmm. Oh, moi, je les ai aimés, eux autres.
Cache-cache-coucou?
Oui, cache-cache-coucou. Parce que, petite histoire et petite anecdote, ceux-là, ils me font penser beaucoup à des gros chevreuils. T'sais, mais ils ont l'impression, d'après moi, qu'ils sont de la grosseur d'un chihuahua.
Oui.
Quand on a descendu, entre autres, au moment où j'avais tiré mon impala, quand on a descendu de la cache, ils étaient en bas, puis ils partent, puis ils font juste un petit trot rapide, puis ils se dépêchent, ils s'en vont dans l'arrière des buissons, mais ils ont les pattes de la même couleur que les tiges des buissons. Fait qu'ils se cachent en arrière, puis là, leur espèce de corps touffu, pouf, sont cachés, on les voit plus. Fait que là, tu vois juste qu'ils se tassent la tête un petit peu à gauche puis à droite du buisson pour te regarder, mais c'est juste pour ça que tu le vois, sinon tu les vois plus pas en tout. C'est incroyable, je trouvais ça vraiment drôle.
Vraiment, vraiment trippant. Une bibitte que moi, je la trouve moins belle, mais c'est quand même assez prisé en Afrique, le Red Artabee.
Ça court vite, c'est un moyen temps, ça, c'est ce que Priscille a eu à récolter. Ça.
Oui, oui, absolument, et c'est... je pense que c'est le deuxième plus rapide en Afrique du Sud, mm-hmm. littéralement. Là. Donc, c'est quand même très, très rapide. Particulier, hein, une tête presque de démon. Là. C'est assez hallucinant. Là. C'est assez hallucinant. Mais tu sais, l'Afrique, c'est ça aussi. Là. C'est beaucoup, beaucoup de trucs spéciaux qu'on n'est pas habitué de voir. Ça, là, c'est tout petit. Là. Ça fait quoi? 3 pieds de long par 2 pieds de haut?
Ouais, c'est fou. Là. Ça, c'est minuscule. Là.
Oui, absolument.
Puis tu sais, j'en ai vu. On en a vu quand même pas mal là-bas. Mais c'est impressionnant. C'est quand justement ça, tu considères ça comme un mâle mature.
C'est un mâle mature. Ben, regarde, je vais t'en montrer un. Là. J'en ai récolté un, moi. Ça, là, c'est un vieux mâle. Là. C'est un vieux mâle mature qui était rendu infertile, donc qui n'était plus capable de reproduire qu'on a collecté. C'est du Steenbuck. Il y a aussi du Diker.
Mm-hmm.
Ça fait partie d'une grande famille qu'on appelle les African Tiny Tens. Les African Tiny Tens, c'est des petites espèces qui sont présentes en Afrique. Et c'est un peu en opposition aux Big Five, là, les éléphants, les lions, etc., que nous, on ne chasse pas. Eh bien, à place de faire comme un hat-trick qui s'appelle le Big Five, mais on fait les Tiny Tens. Inquiétez-vous pas, le léopard que là, on ne fait pas partie. Là, c'est
non,
vraiment
mais ça donne un bon aspect de grandeur, par contre, avec les animaux à côté, de voir qu'ils ne sont vraiment pas gros. Moi, ce qui m'a frappé en Afrique, c'est, bon, de un, tout veut ta peau, tu te rends compte que tu fais partie de la chaîne alimentaire littéralement. C'est clairement pas toi qui es au top.
Non.
Puis l'autre chose, c'est justement cette opposition-là entre les tout petits animaux et les énormes animaux. C'est fou, c'est comme les deux extrêmes. Moi, la première fois que j'ai vu le Diker passer dans le chemin, j'ai dit parce que quand tu le vois sur patte, je l'avais vu en photo.
Oui.
Mais quand je l'ai vu sur patte, puis j'ai vu apparaître dans le chemin, je me souviens, moi, Beverly, la seule chose qu'on a dit, mais c'est un chat. C'est tout petit!
c'est tout petit, effectivement. Je vous fais défiler dans le bas un peu les informations. Dans les places, où est-ce qu'il reste de la place? Du 21 avril au 30 avril 2023, le groupe Mix 1, il reste de la place. Il reste de la place aussi du 29 avril au 8 mai, le groupe Mix 2, mm-hmm. Qui sera accompagné par Patrick et Priscille. Le groupe VIP, qui est un petit peu avant ça, en avril, lui, est plein. Là. C'est Kate et moi qui êtes sur le groupe, qui sommes sur le groupe. Le groupe Filles de bois, du 7 mai au 14 mai, un peu plus court comme voyage. Kate et moi allons être avec le groupe. Dans les tarifs, ben, c'est très, très simple. Et là, ce qu'on va vous parler, c'est tout inclus, à l'exception des frais de l'hôtel à Johannesburg, à peu près 220 $. Mais le reste, là, tout est inclus. Avion, pourboire. Mm-hmm. Le pourboire est inclus, puis c'est 1 000 de pourboire généralement. Là. Donc, avion, pourboire, nourriture, boisson avec modération, boisson douce à profusion, cabine, donc chalet privé avec air climatisé, linge lavé à tous les jours, un guide par deux chasseurs, la camionnette est fournie, l'arme et les munitions sont fournies et inclus dans le prix. Ce qui est très important, c'est quand même assez rare là, ce genre de tarif-là. Pour les accompagnateurs, donc les accompagnateurs, c'est ceux qui ne chassent pas et qui vont embarquer dans les pick-up avec nous autres pour prendre des photos ou quoi que ce soit, eh bien, c'est 3 900 tout inclus. Le forfait chasse à la carte, c'est-à-dire que vous prenez votre droit de chasse, mais vous choisissez vos animaux là-bas et vous payez séparément pour vos animaux là-bas, est à 4 150 Encore là, en tout inclus, les mêmes patentes qui sont incluses. On peut vous envoyer une liste de prix des animaux aussi très facilement. Sinon, ben, il y a le gros package qui comprend un Impala, un Blazebuck et un Blue Wildebeest qui est à 6 650 tout inclus. C'est la totale, évidemment. Et évidemment, vous allez voir là-bas la population travailler avec nous autres pour traquer, pour skinner. Hein, donc, les armes sont fournies, on va les tester. Vous ne transportez pas les animaux, vous ne videz pas les animaux, vous ne les skinnez pas. C'est les gens là-bas qui le font. Vous allez manger de votre viande qu'on a chassée. Oui, absolument, absolument. Puis là, on est une gang de Québécois ensemble dans les quatre groupes. Donc, même si vous ne parlez pas anglais, vous allez être jumelé avec quelqu'un qui parle anglais pour pouvoir parler avec le guide, à moins que vous parliez africain, là. Mais ça m'étonnerait beaucoup.
Bonne chance.
Sinon, tu as quoi à dire sur le trip?
J'ai juste hâte d'y retourner. J'ai vraiment, vraiment hâte, sérieusement. C'est tellement incroyable. Puis, tu sais, je vais le répéter puis je vais le redire 150 fois. J'étais la première à ne pas vouloir aller là.
Oui, 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 absolument.
Puis, j'ai juste hâte d'y retourner, sincèrement, parce que c'est tellement enrichissant. Puis, je sais que vous allez me dire c'est niaiseux, mais ce que j'ai retenu le plus, oui, c'est cool voir ces animaux-là, mais c'est même pas ça. Puis, Martin me l'avait dit, puis je pensais pas que c'était à ce point-là. Puis, pourtant, je suis quelqu'un qui va vraiment prêter attention à ce genre de petits détails-là, les petits sons, la couleur de la chaloupe, tu sais, ces petites affaires-là qui viennent nous chercher puis qui nous remettent dans un souvenir. Et là-bas, les odeurs, le lever du soleil, les sons, le son matin là, des oiseaux, là, et l'arbre là, sur la pourvoirie là, qui est plein.
Celui que le soleil se lève direct en arrière.
Ah oui, c'est fou. Mais il y a ça, mais pas ça. L'autre à côté du lodge là, qui est rempli d'espèces
d'oiseaux.
Oui,
le soir, il y a des bush babies là-dedans, des petits lémuriens, des petits marsupiaux, qui est comme un petit singe. Là.
Mais il y a tellement d'espèces d'oiseaux. Parce que quand je me suis installée avec la caméra pour filmer l'arbre, là, j'essayais d'aller zoomer. J'étais comme, il y en a un là. Celle-là, il est donc bien coloré. Il y en a un autre là. C'est quoi? Il y avait toutes sortes d'oiseaux. C'est hallucinant. Là, il y a des petits lézards qui se promènent partout. Puis, un gecko. Un lézard.
Parlant de ça, pour les autres bibittes que vous n'aimez pas,
La
saison où est-ce qu'on va là-bas, avril et mai, pour les Sud-Africains, c'est leur automne. Alors, le matin, il fait 5-10 degrés Celsius. Là. Il n'y a pas d'insectes piqueurs. Les serpents sont en hibernation, sont serrés dans les trous. Il n'y a pas de scorpions, il n'y a pas de mygales, des tarentules ou quoi que ce soit. On est dans la saison où il n'y a rien de tout ça. Par contre, c'est la saison où est-ce que la majorité des espèces rentrent en reproduction. Vous allez voir des impalas faire du rattling dans les branches, se battre entre eux autres, caler, grunter. C'est hallucinant, ça bouge beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là.
Oh oui, c'est vraiment le fun d'avoir allé. Fait que, vous avez de l'interaction qui est là, puis vous allez probablement même ressentir certaines similitudes avec vos chasses ici, entre autres avec l'impala, la manière dont le rut se passe, à l'exception de la manière dont il va rassembler ses femelles. Sinon, c'est pareil, là. C'est du rattling, c'est des glandes préorbitales, c'est le grattage à terre, c'est même affaire, c'était impressionnant de voir ça aller.
Très impressionnant. Moi, la première fois que j'ai entendu un impala, je pensais que c'était un gros cochon qui s'en venait.
Moi aussi, j'étais sûre, je m'en souviens parce qu'on était en train de chercher mon Blazebuck.
Oui, absolument, absolument. Écrivez-nous, mais soyez clair et rapide parce que les places que vous demandez, dépendamment des dates, là, il reste des places dans les groupes mix, il reste des places aussi. Filles de bois, vous avez demandé un groupe, on vous a fait un groupe. C'est le temps là, de vous emmener dans le groupe Filles de bois.
Oui.
Donc, écrivez-nous. Mais écrivez-nous d'emblée que vous êtes intéressé. Comme ça, si on attend après votre réponse, puis elle était disponible à la place, mais elle l'est plus. Soyez quand même assez rapide. Écrivez-nous sur nos Facebook privés, c'est le plus facile à Kate et à moi. Donc, quand vous écrivez sur nos Facebook Pro, on va les voir un petit peu moins souvent parce qu'il y a un département web qui s'en occupe. Généralement, c'est des questions plus générales. Venez sur nos Facebook privés. Martin, je veux une place en Afrique ou Kate, je veux une place en Afrique. OK, c'est beau, on regarde les dates ensemble, puis croyez-moi, là, on vous appelle au téléphone quand même assez rapidement pour vous expliquer le trip.
Il y en a qui ont fait des sauts. Parce qu'on est comme, OK, bon, ben parfait, es-tu disponible? Oui, Ben, sur vidéo, de même, là!
On veut vivre une expérience. Hein, ce sont des voyages qu'on a négociés, que Pat a négociés pour nous autres, de façon à ce qu'il n'y a pas d'agent entre les deux qui fait de profit. C'est la pourvoirie qui fait affaire avec vous. Pat s'occupe de percevoir le paiement pour la pourvoirie. Il n'y a pas de profit qui sait, il n'y a pas d'agence, on s'en va là-bas. C'est tout en canadien.
Ouais.
Si vous voulez un animal de plus là-bas, le prix qu'ils vont vous donner est en canadien, mais ils vont donner le même prix à l'américain à côté, mais en américain. Donc, ça a été négocié pour nous permettre de vivre des belles expériences avec vous autres. Fait que c'est sûr qu'on est rapide à faire comme « Yes, venir en Afrique, on va aller triper ensemble. » Écrivez-nous, parce que sinon, ça va à 2024. 2024, on sort les dates bientôt. On a déjà des dépôts de données là, pour 2024.
Ah,
il y en a une
fou.
Couple qui... Je ne sais pas c'est quoi les dates, mais voici mon dépôt de 50%.
Moi, je t'amène sur un autre petit
oui.
sujet. Écoute, c'est l'arrivée en kiosque du nouveau magazine
et
Aventure
voilà.
Chasse-Pêche. Merci en passant à tout le monde qui nous envoie des commentaires. C'est le fun de savoir un petit peu si vous aimez le contenu. Il y a une équipe qui travaille fort et d'arrache-pied derrière de tout ça. Je sais qu'il y en a plusieurs qui ont apprécié le visuel, entre autres du magazine. Mélanie, encore une fois, qui a fait une job de feu. On y arrive toujours avec des idées pauvres petites, puis on fait comme... Pas moi de quoi.
Essaye de faire ça. Elle arrive tout le temps avec quelque chose qui est débile. Regarde ce qu'elle a réussi à faire. On veut illustrer que la faune est en danger si on ne s'en occupe pas, qu'il y a des choses qui devraient être faites présentement pour sauver l'orignal, sauver le chevreuil. Elle nous arrive avec des idées comme ça, c'est comme simplement magnifique.
N'oubliez pas une chose, hein, vous le savez, on est en train de vous bâtir, comme toujours, des belles promotions. Donc, vous avez un concours annuel, entre autres, avec la compagnie Imago. Donc, vous pouvez gagner si vous vous abonnez. Donc, à la fin de l'année, on fait les tirages et puis vous pouvez gagner une fameuse tente. Voyons, aide-moi.
Un glamping.
Merci,
allez voir
c'est le mot que je cherchais.
Allez voir Imago, tente ou glamping. Vous allez voir sur leur site, ils font des utopias. Ils font un petit peu toutes sortes de tentes sphériques, etc. Des genres d'igloos. Allez voir les tentes de glamping comme ça. Là. Ça en vaut vraiment la peine. Vous pourriez en gagner une. Là. C'est gros, ça. Là. Il y a de la place là-dedans. Puis c'est, en passant, tu laisses ça dehors 365 jours par année. Il n'y en a pas de problème. Tu fais une base en bois, tu tires ça là-dessus. C'est le camp des invités.
Non, oui. Puis merci à tous nos chroniqueurs parce que c'est un magazine où il y a beaucoup d'articles de fond.
Oui.
On s'adresse beaucoup justement aux enjeux fauniques. Donc, c'est le temps de vous le procurer. Soit en kiosque ou encore abonnez-vous parce que vous le savez, on fait plein de promos. Puis d'ailleurs, magazine numérique, j'en profite pour le dire, plateforme qui est maintenant entièrement rétablie, donc beaucoup plus facile aussi pour trouver les différents magazines que vous avez besoin.
Absolument. Inscrivez-vous à notre infolettre.
Oui.
Inscrivez-vous à One Signal aussi pour savoir tout ce qui se passe en temps réel. La minute qu'il y a quelque chose qui sort, nous autres, on va tu faire nos bagages?
On s'en va. Non, on fait nos bagages. On s'en va dans deux ou on s'en va se coller sur nos enfants.
Moi, m'a ouvert ma valise. Si tu me dis que tu l'as fini, moi, checker ce qu'il y a dedans.
On s'en va se coller sur nos enfants puis on part en avion tantôt puis on vous tient au courant, on vous amène avec nous autres.
Restez à l'écoute puis regardez. Là, One Signal, vous allez voir si on rentre en live de partir de Vegas. Allez vous abonner. Là. Salut, gang!
Salut tout le monde!